des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Vous avez sûrement vu dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, ce long et très complet et très complexe dossier sur les gens qui font du tourisme médical et ça se passe mal. Ils ont des opérations à l'étranger et il y a beaucoup d'histoires d'horreur. Ce qui m'a frappé dans ce dossier, bon, beaucoup de choses m'ont frappé, mais ce qui m'a frappé, entre autres, c'est de voir que certaines personnes n'avaient pas pris d'assurance voyage. Donc, je suis pas là, évidemment, pour leur lancer la pierre ou pour leur faire la morale en levant mon petit doigt puis en leur donnant une leçon. Mais juste pour rappeler quand même qu'on fasse du tourisme médical ou qu'on fasse du tourisme tout court, quand on calcule combien ça coûte l'assurance voyage versus combien nous coûte un voyage, vous faites un voyage qui coûte 3 000, 4 000, 10 000 $, peu importe, même si c'est juste un voyage qui coûte 800 $, ne pas prendre d'assurance voyage, là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à dépenser 100 $ pour éviter des frais médicaux qui peuvent monter jusqu'à 100 000 $. Il me semble que le calcul mathématique se fait quand même assez rapidement. Donc, quand je vois des histoires très tristes comme ça de tourisme médical qui finit mal, j'ai envie de pousser un très attristé. Ben, voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous avez sûrement vu en fin de semaine cette nouvelle qui, moi, m'a vraiment estomaqué, le ministre Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice, qui annonce que Québec devrait se gouverner en fonction de sa propre charte des droits et libertés. Donc, la charte des droits et libertés québécoise plutôt que la canadienne. Ça me semble être une nouvelle extrêmement importante et je suis un peu surprise que ça ait eu si peu d'écho jusqu'ici. Je trouvais ça extrêmement important d'en parler aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire avec Frédéric Bastien, il est professeur, historien et auteur d'un livre sur le rapatriement de la Constitution, le livre « La bataille de Londres ». Monsieur Bastien, bonjour.
Oui, bonjour.
Quand vous avez vu ça, en fin de semaine, Simon Jolin Barrette qui dit « Bon, ben finalement, au lieu de faire référence à... au lieu de juger nos lois à l'aune de la charte canadienne, on devrait le faire à l'aune de la charte québécoise. » Comment vous avez réagi?
Ben moi, évidemment, je suis heureux de voir qu'il y a un gouvernement du Québec. C'est pas le monsieur Barrette, c'est pas le premier, mais qui retourne, si je puis dire, aux fondamentaux. On nous a imposé la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés qui sert à invalider les lois identitaires du Québec. Ça a servi à invalider la loi 101 à plusieurs reprises. L'an dernier, la Charte canadienne a servi à invalider une partie de la loi 21 et est déjà contestée. La loi 96 qui vient d'être adoptée est déjà contestée en vertu de la Constitution de 82 qui inclut donc notre belle Charte canadienne et qui nous a été imposée sans notre consentement. Alors évidemment, il faut être cohérent dans la vie. Alors on peut pas être au gouvernement du Québec, on peut pas être l'Assemblée nationale du Québec et faire comme si on avait adhéré librement à la Constitution de 82. Alors, il y a un besoin de cohérence et je suis très heureux que le ministre Barrette, qui n'a pas été le premier à faire ça, mais que quelqu'un revienne avec de l'avant avec cette idée, quoi.
Alors, c'est important de rappeler que depuis 1982, aucun gouvernement québécois, aucun gouvernement n'a entériné la fameuse Constitution de 82. Donc, que ce soit des gouvernements libéraux, que ce soit des gouvernements péquistes, que ce soit des gouvernements caquistes, ils ont tous tenu leur bout du bâton. C'est ce qui fait encore qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette légitimité-là de la Constitution rapatriée en 82.
Voilà, exactement. Alors, vous savez, quand on nous culpabilise parce que la loi 21 violerait la Charte canadienne des droits et libertés, parce que la loi 101 violerait la Charte canadienne des droits et libertés, eh bien, ces accusations... Vous savez, la Charte canadienne des droits et libertés, ça sert à deux choses. Ça sert à culpabiliser les Québécois, à leur dire « Vous n'êtes pas gentils, vous violez les droits et libertés. » Donc, c'est un outil politique pour culpabiliser le Québec quand le Québec fait des choix différents de ceux du reste du Canada et a des choix collectifs différents. Et ça sert également, évidemment, devant les tribunaux. Ça sert aux juges à plaider contre les lois québécoises. Et ça permet aux juges fédéraux d'invalider les lois du Québec.
Oui.
Alors, c'est extrêmement important de s'opposer. Oui. Vous voyez à quel point c'est nocif, c'est pervers. Donc, il faut s'opposer à cela.
Servez-nous de professeur un petit peu, Frédéric, parce que c'est ça votre métier dans la vie aussi, d'être professeur. Donc, faites un peu de pédagogie avec nous pour des gens qui nous écoutent puis qui se disent, bon, ben, la Constitution, qu'est-ce que ça donne, pour reprendre une expression d'Yvon Deschamps, qu'est-ce que ça donne dans ma vie à moi de tous les jours, qu'on applique la Charte canadienne, qu'on applique la Charte québécoise, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie à moi de monsieur et madame tout le monde? Expliquez-nous ça.
Ben, par exemple, si vous appliquez seulement la Charte québécoise, vous ne pouvez pas invalider la loi 101 au niveau de l'accès à l'école anglaise au Québec. Alors, quand M. Lévesque, avec la loi 101, quand le Parti québécois, lors de son premier mandat, a imposé la loi 101, on a restreint énormément l'accès à l'école anglaise au Québec. Et après ça, grâce à la Charte canadienne des droits et libertés, les juges fédéraux ont cassé une partie de la loi 101. Alors, si vous pensez que c'est important le français au Québec, eh bien, la Charte canadienne n'est pas pour vous, puisque la Charte canadienne sert à bilinguiser le Québec, sert à angliciser le Québec. Elle sert à permettre au plus grand nombre possible de gens de vivre en anglais seulement au Québec. Alors, c'est un outil qui est utilisé par la communauté anglophone du Québec pour protéger ses privilèges et pour lui la dispenser de vivre en français. Et d'utiliser, je devrais dire, plutôt le français comme langue commune. Pour la loi 21, ben, c'est la même chose. On a dispensé les commissions scolaires l'an dernier. Le juge Marc-André Blanchard, un ancien donateur du Parti libéral du Canada, en passant, je tiens à le souligner, avant d'être nommé juge, a dit, voilà, la loi 21 ne s'applique pas aux Anglais du Québec. Alors, aux commissions scolaires anglophones du Québec. Alors, voyez-vous, la charte, ça donne énormément de choses comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. On sort un peu des lois identitaires. Mais vous savez, ce Adil Sharkawi, ce prédicateur haineux là, qui s'est réjoui de la victoire des talibans l'an dernier en Afghanistan.
Oui.
Hein, en Afghanistan, où des soldats québécois sont morts pour aider le peuple afghan lors des opérations militaires auxquelles le Canada a participé, eh bien, il a dit, voilà, bravo, victoire des talibans. Donc, vous avez ce prédicateur haineux, et les autorités voulaient le déporter dans les années 2000, mais vers son Maroc natal, il n'était qu'immigrant reçu. Mais les avocats de M. Sharkawi connaissaient bien la Charte canadienne des droits et libertés. Ils l'ont utilisée, ils l'ont plaidée, et ils ont fait dérailler le projet des autorités de déporter M. Sharkawi du Québec. Alors, il va rester avec nous pour le reste de sa vie, puisqu'il est maintenant citoyen canadien. Alors, voyez-vous, la Charte canadienne des droits et libertés, ça a un impact multiple sur plein de choses. On a, au nom de l'arrêt Jordan, on a dit les délais judiciaires sont trop longs au Québec. Eh bien, il y a des présumés meurtriers, il y a des présumés fraudeurs qui sont sortis de prison sans procès. Nathalie Normandeau, entre autres. Marc-Yvan Côté, celui qui avait admis avoir reçu des centaines de milliers de dollars en petites coupures dans une valise lors de la commission Gomery. Alors, vous avez des gens qui n'ont pas eu leur procès, des amis du régime, puisque grâce à la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, c'est une question qui touche tout le monde dans tous les aspects de notre vie. Et ceux qui disent que ça n'a pas d'importance, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ça, parce qu'ils savent que cette question-là, elle va amener nécessairement à la question de la place du Québec dans le Canada. Alors, ils essaient de nous endormir en nous disant, voilà, parlez pas de ça, c'est pas intéressant, circulez, il n'y a rien à voir.
j'aime bien l'expression. Est-ce qu'il n'y a pas une question fondamentale? C'est-à-dire que au Québec, on est, c'est clair, une société distincte, ne serait-ce que, bon, évidemment, de par notre langue commune, le français, mais aussi par cette approche qu'on a de la laïcité qui ne peut qu'être complètement à l'opposé de la vision multiculturaliste qui règne dans le reste du Canada. Est-ce que cette vision-là qu'on a, nous, du rapport entre le politique et le religieux, c'est pas quelque chose de fondamental et que la seule façon justement de le protéger, c'est en appliquant notre propre charte. Parce que si on s'obstine avec le reste du Canada, on n'y arrivera jamais parce que c'est deux visions qui sont irréconciliables. On peut pas à la fois être laïque et être multiculturaliste, là.
Non, absolument pas. Il faut dire que les pays anglo-saxons, mais en fait, pour être plus précis même encore, les pays de l'ancien Empire britannique, vous avez la reine qui règne du Canada et en même temps, les chefs de l'Église anglicane.
Voilà. Alors,
ce sont les pays parmi lesquels, dans le monde développé, la séparation de l'Église et de l'État est la plus floue, la plus poreuse. Donc, déjà en partant, évidemment, il y a deux conceptions de la société, donc conceptions différentes au Québec. Et la façon dont le monsieur Barrette n'a pas été très explicite dans l'entrevue qu'il a donnée au Journal de Montréal, mais il a dit qu'il faut miser sur la charte québécoise. La seule façon concrètement de faire cela, il faut absolument que ce soit via l'utilisation de la clause dérogatoire. La clause dérogatoire, je vais revenir à ce rôle de professeur que vous m'invitez à jouer. La clause dérogatoire, ça c'est une clause de la Constitution de 82 qui nous a été imposée, mais que l'Assemblée nationale peut invoquer en disant, voilà, on protège la loi 21, par exemple, c'est ce que le gouvernement Legault a fait, on invoque la clause dérogatoire et on limite le pouvoir des juges fédéraux d'invalider nos lois, en l'occurrence, dans l'exemple que je donne, la loi 21. Donc, les juges sont beaucoup plus difficile pour des juges fédéraux d'invalider une loi quand elle est, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile quand elle est protégée par la clause dérogatoire. Alors, c'est ce que M. Jolin Barrette veut faire. Et ce qui est très intéressant dans ce qui se profile comme débat, c'est que le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il allait contester l'utilisation de la clause dérogatoire dans le cas de la loi 21 en Cour suprême. Alors, M. Trudeau a fait comme beaucoup d'autres politiciens ont fait dans les derniers mois. Ils ont tous cassé du sucre sur le dos du Québec avec la loi 21. Et un à un, ils ont tous annoncé qu'ils allaient aller en Cour suprême pour contester la loi 21. Ça a commencé avec Jackman Singh, ça a suivi avec Patrick Brown, le maire de Brampton, candidat à la chefferie du Parti conservateur. Et là, vous avez Jean Charest, un ancien premier ministre du Québec qui a lui-même refusé de signer la Constitution de 82 quand il était premier ministre. Et là, annonce qu'il se tournera s'il est élu vers les juges fédéraux, vers la Constitution.
Incroyable.
Pour utiliser cette même Constitution de 82 qu'il n'a pas signée quand il était premier ministre, il va attaquer les lois du Québec avec ça. Cet homme qui a prêté un serment de loyauté au Québec quand il est devenu premier ministre. Je ferme la parenthèse. Ça ne parle pas pour M. Charest. J'ai des mots très durs qui me viennent à la bouche. Je ne les prononcerai pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que la clause dérogatoire va être contestée par M. Trudeau en Cour suprême. Et là, il y a une bataille extrêmement importante qui s'en vient.
Ouais. Mais est-ce que c'est pas extrêmement insultant? Parce que vous l'avez dit, j'ai noté, vous dites la Charte canadienne, ça sert à culpabiliser le Québec. Et la clause dérogatoire, c'est quand même assez hallucinant parce que c'est une clause qui est prévue donc dans cette fameuse Constitution qu'on n'a jamais signée. Elle est pourtant dedans. Et même si on ne l'a pas signé, quand on l'invoque et qu'on veut l'utiliser, on se fait dire par le ROC, le Rest of Canada, c'est très vilain ce que vous faites là. Vous êtes en train d'utiliser la clause dérogatoire. C'est comme une injure qu'on rajoute à l'insulte. Non seulement il y a cette charte, cette constitution qui nous est imposée, mais même des provisions de cette même constitution, quand on cherche à les utiliser, on se fait dire qu'on n'a pas d'affaire à l'utiliser. C'est comme on a l'impression qu'on se fait peinturer dans un coin finalement, Monsieur Bastien.
Oui, c'est absolument scandaleux parce que ces dispositions-là de la Constitution de 82, elles ont été voulues d'abord par les provinces anglophones, donc par le Canada anglais. M. Trudeau les a acceptées pour faire un compromis, pour avoir...
Trudeau père,
voilà, absolument, Trudeau père, merci de le préciser. Et là, donc, M. Trudeau père, en 82, a vanté les dispositions de dérogation. Il dit que c'est nécessaire. Un jour, peut-être, on voudra protéger le droit à l'avortement. Donc, on doit avoir cette marge de manœuvre qui donne au Parlement une certaine liberté de faire appliquer des lois, même si la Cour, les tribunaux, les juges les invalident en vertu de cette charte qui existe dans notre Constitution depuis 82. Et bref, mais quand M. Bourassa, en 1988, a utilisé la clause dérogatoire pour défendre la loi 101, qui venait d'être invalidée par la Cour suprême du Canada, eh bien là, M. Trudeau perd, a lancé sa fatwa contre la clause dérogatoire, contre l'accord du LACMIQ, contre la loi 101 et contre le Québec. Et là, ça a été la clause maudite, la clause maléfique, la clause diabolique. Et là, il a poursuivi le reste de sa carrière, non content de nous avoir trahis en 1982, il a poursuivi sa carrière en cassant du sucre sur le dos du Québec et sur le dos de la clause dérogatoire.
Ce qu'on retient de tout ça, finalement, Monsieur Bastien, j'allais dire professeur Bastien, c'est la chose suivante, c'est que, dans le fond, on se rend compte qu'à l'intérieur de ce grand et beau pays qu'est le Canada, quand le Québec veut se tenir debout, quand le Québec veut avoir une colonne vertébrale et dire, comme l'a dit François Legault, ben c'est comme ça que ça se passe au Québec, donc faire reconnaître la langue, faire reconnaître des valeurs, quand on veut faire valoir la différence québécoise, ça rentre en conflit avec notre appartenance à ce grand tout qu'est le Canada. Est-ce que vous sentez, dans cette entrevue qu'a donnée M. Jolin Barrette, une sorte de volonté d'autonomie, d'affirmation de cette autonomie québécoise, ou est-ce qu'on y accorde trop d'importance?
Non, non, il y a une réelle tentative, il y a une réelle volonté d'affirmer l'autonomie du Québec. Alors, il faudra voir jusqu'à où tout cela va aller. La question est ouverte, puisque la question va être devant les tribunaux dans quelques mois, devant la Cour suprême, probablement l'an prochain.
Écoutez, professeur Frédéric Bastien, merci beaucoup d'avoir nous avoir donné ce cours de Constitution 101, un petit rappel historique pour ceux qui s'en souvenaient pas, et puis bon, un rappel d'un certain nombre de choses essentielles, même pour ceux qui s'en souvenaient. Puis on salue les petits oiseaux, c'est les petits oiseaux qu'on entend derrière vous?
Oui, c'est ça, c'est mon bureau, les fenêtres sont ouvertes, voilà.
Ah non, mais j'adore ça, je pensais que vous aviez des perruches à la maison, mais ce sont les petits oiseaux du quartier qui ont agrémenté l'entrevue.
Voilà, exactement.
J'adore ça. Merci à vous, Frédéric Bastien, donc historien, professeur et auteur de ce livre que je ne saurais trop vous recommander, La bataille de Londres, donc sur le rapatriement de la Constitution. Très important de remettre les choses en contexte quand on parle de la Charte des droits et libertés et aussi, bien sûr, de cette fameuse clause dérogatoire qu'on se fait dire « non, vous êtes des vilains quand vous l'utilisez ». Donc, très important de faire cette remise en contexte dans la situation qu'on vit en ce moment.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
C'était le premier tour des législatives en France en fin de semaine. On va évidemment parler de tout ça avec Rachel Binas, qui est collaboratrice ici à Cube Radio et que vous pouvez lire également dans différentes publications en France, dont Marianne. Vous pouvez l'entendre aussi à la radio et à la télé en France. Mais nous, on est super contentes de l'avoir avec nous ici à Cube Radio. Rachel, bonjour.
Bonjour.
On va parler de plein de sujets intéressants et on commence avec ces législatives. Des résultats quand même assez plus que décevants pour celui qu'on connaît bien au Québec, Éric Zemmour. C'est un peu la débandade.
C'est la douche froide. Il n'a pas réussi à se qualifier puisque vous savez que les législatives ont lieu en deux tours. C'était dimanche dernier, hier, et ce sera dimanche prochain. Il faut donc pour ça être qualifié à la suite du premier tour. Eh bien, lui, à Saint-Tropez, puisqu'il a été parachuté, il s'est parachuté à Saint-Tropez, il n'avait pas d'ancrage territorial particulier, il n'a pas réussi à se qualifier, ni d'ailleurs aucun de ses candidats partout en France, si bien que certains se demandent si ce n'est pas la mort de son parti politique et aussi la fin de son aventure qu'il avait entamée en automne dernier.
Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est que il y a quelques semaines seulement, on entendait parler que de lui. C'était Zemmour-ci, Zemmour a dit ça, Zemmour est allé à tel endroit, Zemmour a confronté quelqu'un. Et là, ça fait pouette, 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 excusez-moi l'expression. Comment vous expliquez ça, Rachel, que entre les présidentielles et les législatives, que ça, comme on dit au Québec, il y a une expression, on dit la balloune s'est dégonflée, son ballon peut-être gonflé d'hélium, c'est complètement dégonflé. On explique ça comment?
Ben oui, oui, c'est peut-être tout simplement que de l'air. En effet, les médias ont largement participé à sa campagne en automne dernier. Il était difficile d'ouvrir un journal. Enfin, vous ne pouviez pas échapper à sa campagne avant même, d'ailleurs, qu'il se déclare candidat. Hein.
C'est vrai.
Les chaînes d'infos continuent en parler continuellement, des pronostics sur la date, quand est-ce qu'il va s'annoncer ou pas. En effet, et finalement, ben, si ses idées, en effet, persistent hein, et demeurent au sein de la société, eh bien, il n'a pas réussi à cristalliser autour de lui un enthousiasme particulier. Et puis, il y a eu plusieurs sorties aussi qui lui ont coûté cher. Hein. Alors, des sorties passées qu'on lui a ressorties, son rapport aux femmes, son rapport à l'histoire, aux juifs et puis aux handicapés. Tout ça a fragilisé son image. Et finalement, ben, les Français n'ont pas souhaité lui donner une chance de poursuivre, en tout cas pour la présidentielle et pour les législatives, son aventure. Ça ne veut pas dire que le parti est mort pour autant, mais il en a pris un sérieux coup et on se demande comment ils vont réussir à rebondir.
Voilà. Et peut-être pour lui éventuellement un retour dans les médias, parce qu'il avait évidemment quitté ou été forcé de quitter dans un cas à CNews. Il avait été obligé donc de quitter puisqu'on pressentait qu'il allait être candidat. Donc une fin un peu pouette-pouette pour Éric Zemmour. Marine Le Pen, ça s'est passé comment?
Alors Marine Le Pen, plutôt bien, hein, plutôt bien. Elle arrive en troisième position avec, à l'échelle nationale, 18,7% des voix. Elle est plutôt satisfaite et elle était à deux doigts de l'emporter, puisqu'elle-même était candidate à Hénin Beaumont, dans son fief, dès le premier tour. Ce qui lui a manqué, c'est un nombre de suffrages suffisant, en fait, de voix exprimées, parce que, si vous voulez, le taux d'abstention, l'abstention étant le premier parti de France aujourd'hui, l'abstention étant record, hein, depuis la cinquième, on n'avait jamais vu ça, eh bien, il a manqué une participation pour que sa victoire puisse être vraiment triomphante et pour l'emporter dès le premier tour. Donc, elle va arriver au second tour avec néanmoins une assise assez forte, puisque, si je ne me trompe pas, sur son territoire, elle fait près de 53%.
Ouch.
Donc, c'est élevé, c'est extrêmement élevé. Et en effet, contrairement aux précédentes élections, son parti devrait bénéficier d'un groupe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y a fort à parier qu'il y ait plusieurs dizaines de députés Rassemblement national à l'Assemblée.
Oui. Alors, c'est assez particulier parce que, bon, votre système électoral est tellement différent du nôtre. Donc, c'est vraiment complètement différent. Donc, dans un premier temps, on choisit qui va être le président. Et ensuite, plus tard, on décide qui vont être les députés. C'est exactement l'inverse de chez nous. On vote, il y a une seule élection, et celui qui a le parti qui a le plus de qui a fait élire le plus de députés, ben c'est le chef de ce parti-là ou la chef qui se retrouve à être premier ministre de la province ou premier ministre du pays. Donc on a de la difficulté à comprendre pourquoi vous faites les choses à l'inverse de chez nous. Mais
c'est
tout
nouveau,
ça,
hein, enfin c'est nouveau, oui. C'est assez récent. C'est assez récent. Puisque ben, avant, on élisait d'abord les députés et ensuite un chef de l'État, et puis il y a eu une réforme, et depuis, eh bien, on élit d'abord le président, et ensuite les Français ont tendance jusque-là à accorder au président la majorité. Or oui. Là, rien n'est gagné, le parti d'Emmanuel Macron n'a pas brillé, loin de là, il est au coude à coude avec, on va dire, le bloc de gauche, qui s'appelle NUP ou NUPES, qui est, qui fait quasiment le même score que la majorité présidentielle.
Oui, ça va être très intéressant à suivre. Donc, et en plus, une différence avec nous, c'est cette histoire de premier tour, deuxième tour. Donc, en fait, la réponse définitive, ça va être dimanche prochain. Donc, à voir et à suivre, comme on dit. Bon, justement, ce rassemblement NUP dont vous venez de parler, il y a évidemment Jean-Luc Mélenchon. On va pas parler nécessairement de Jean-Luc Mélenchon dans les législatives, mais plutôt d'une déclaration qu'il a faite il y a quelques jours. Il a dit « la police tue », parce qu'il y a eu donc une confrontation entre... je vous laisse expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon a dit cette phrase que moi je trouve absolument dangereuse et terrifiante. « La police tue », qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça. Alors, il y a eu un énième refus d'obtempérer de la part d'un véhicule dans un quartier populaire de Paris. et les policiers ont ouvert le feu. Il y avait plusieurs personnes à bord. Si le chauffeur n'est pas mort, l'une des passagères, si, elle a perdu la vie. Et c'est donc suite à ce fait divers, qui est en fait un fait social, qui... Ce sont des faits comme ça assez quotidiens en France, ben que encore une fois Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour expliquer que suite à un refus d'obtempérer, la personne avait perdu la vie, donc la police tue. Et d'ailleurs cette phrase, cette espèce de présent éternel, ben il y a une manière de présenter cette tragédie avec l'idée que la police tuera intentionnellement, ou en tout cas il y aurait une violence systémique au sein de la police. C'est assez particulier de sa part, parce que Mélenchon se rêve pas seulement président de la République, puisque maintenant c'est Emmanuel Macron, mais Premier ministre, dans le cadre, par exemple, d'un gouvernement de cohabitation. Or, quand on est Premier ministre, on a à traiter avec ce corps, avec cette institution.
Bien sûr.
Et il est difficile de généraliser de la sorte. Surtout que on parle là, et les médias les premiers, d'un refus d'obtempérer. Mais les policiers ont un récit qui est quelque peu différent. Ils n'ont pas ouvert le feu parce que la voiture avait refusé de s'arrêter. Ils ont ouvert le feu parce que le conducteur avait roulé délibérément dans la direction des policiers avec l'idée de les écraser.
C'est pas tout à fait la même chose. Oui.
Exactement. Donc là, la question de légitime défense peut se poser si on essaye de vous écraser. Notons que le conducteur avait en fait près de 80 mentions à son casier. C'était quelqu'un de connu défavorablement des services de police, et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il fuyait.
Oui, alors ça c'est très particulier de la part de Monsieur Mélenchon quand même d'aller écrire « la police tue ». Ça fait partie aussi un petit peu de tout ce mouvement-là, né aux États-Unis, « defund the police », ou encore un mouvement peut-être plus extrême, puis je dis pas que Monsieur Mélenchon en fait partie, mais « all cops are bastards », tous les policiers sont des salauds. Donc on prend pour acquis, sans connaître les faits, avant de connaître les détails, s'il y a la police qui est quelque part et qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est forcément de la faute de la police. Il y a comme une présomption de culpabilité face à la police.
Exactement.
Et si c'est monsieur et madame tout le monde qui dit ça, c'est une chose, mais quand on est un politicien, de présumer de la culpabilité de la police ou de présumer d'une intention meurtrière de la part de la police, c'est ça qui est surprenant.
Et ils cherchent en fait à séduire une partie des jeunes qui peuvent avoir un sentiment de défiance à l'égard de la police. C'est assez stratégique. Notons d'ailleurs qu'il est assez amusant de constater que Jean-Luc Mélenchon avait souligné le manque d'efficacité et de stratégie de la part des forces de l'ordre à propos des violences au Stade de France.
Oui, dont on s'est parlé.
D'une finale de football. Donc si vous voulez, la police elle est mal aimée par certains, sauf quand ils en ont besoin.
Voilà, c'est très bien résumé.
D'un coup, elle revient en odeur de sainteté.
Oui, c'est ça. Quand on veut être protégé, on veut qu'elle soit super efficace et présente partout et qu'elle prenne notre défense à nous. Mais quand ça les arrange politiquement, tout d'un coup, ils critiquent le travail de la police. On en fait soit trop, soit pas assez, dépendant de quel côté on se trouve. Écoutez, il nous reste quelques instants. Je veux absolument qu'on parle de cette jeune femme qui s'appelle Mila, qui avait été la cible il y a quelques années de ça, vraiment d'une campagne de haine, d'intimidation, de menaces de mort à cause de tweets qu'elle avait fait concernant la religion musulmane. Elle est lesbienne, Mila. Elle avait 16 ans au moment des faits. Et là, elle a été placée sous protection policière, etc. Donc, ça fait 2 ans qu'elle vit vraiment dans la crainte d'atteinte à sa sécurité. Et là, en fin de semaine, parce que je la suis sur les médias sociaux, elle a fait toute une série de gazouillis pour dire qu'elle avait participé à un défilé de la fierté gay et qu'elle a été vraiment harcelée sexuellement avec sa copine. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Elle décrit en effet une agression, c'est à Lyon, et en quittant justement le défilé, elle explique que elle et son amie ont dû faire face à des jeunes qui les ont agressés sexuellement, en susurrant des mots à l'oreille, en touchant les parties intimes, Elle a essayé, voilà, d'intervenir sans forcément un grand soutien autour d'elle. Et donc, elle a dénoncé ça. Elle a dénoncé cet harcèlement et puis ces agressions sexuelles. Ceci étant dit, ce n'est pas propre à ce défilé-là. Ce qu'on appelle en France la Gay Pride, puisque vous savez que les anglicismes sont rois au pays de Molière. Oui. C'est un comportement que l'on retrouve régulièrement, depuis un certain nombre d'années, lors de toute festivité, de tout rassemblement, tout gros rassemblement. On le retrouve à la fête de la musique, au Nouvel An. Ça peut être des agressions sexuelles.
On se rappellera de Cologne.
Exactement. Ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être aussi tout simplement des violences visant aussi bien des hommes que des femmes. Si bien que, par exemple, les concerts de l'association SOS Racisme se sont arrêtés à un moment parce qu'il y avait ces bandes intenables qui produisaient des incidents. La fête de l'UMA est également une grande fête de gauche.
L'humanité.
Elle aussi fait face à ce type de comportement, avec parfois des hommes qui sont, alors on aime à dire, issus de l'immigration, en réalité, d'une certaine région géographique, plutôt d'une culture musulmane ou d'un monde arabo-musulman, qui ont un rapport aux femmes extrêmement particulier et un rapport au corps également. Ajoutez à ça la pornographie qui fait de très gros dégâts, vous mélangez tout ça dans le shaker et voilà ce que vous obtenez, des incidents qui se multiplient et des médias plutôt silencieux.
Oui. Alors, ce qu'il faut noter, et c'est vous qui me le faisiez remarquer, Rachel, c'est que donc elle a fait ces commentaires-là sur les médias sociaux en fin de semaine, la jeune Mila, et ça a évidemment provoqué toutes sortes de réactions, et ensuite elle a effacer ses gazouillis. On imagine que c'est aussi pour se protéger, parce que déjà que ça fait 2 ans qu'elle vit avec des menaces de toutes sortes, vu qu'elle nommait ses agresseurs en disant spécifiquement de quelle région géographique ils étaient originaires, on imagine que ça lui a pas attiré beaucoup d'amis. Rachel, on va se quitter là-dessus. Et vu que nous, notre saison se termine vendredi, ben ça va être notre dernière conversation pour l'instant, en espérant avec beaucoup de plaisir vous retrouver au début de la nouvelle saison, quelque part au mois d'août ou au mois de septembre. Rachel, ça a vraiment été un plaisir de vous avoir
un
comme étant
partagé.
Nos yeux et nos oreilles en France. Donc, passez un super bel été. Et puis, je vous ferai peut-être un petit coucou, sûrement un petit coucou en allant à Paris cet été.
Ben j'espère bien et bel été à tous les auditeurs également.
C'est gentil, merci beaucoup. Rachel Binaz, donc, qui est une journaliste que j'adore. J'adore son point de vue, j'adore sa façon de s'exprimer. J'adore sa franchise et son humour en même temps. Donc, elle est collaboratrice ici à Cube Radio et vous pouvez la lire aussi dans différents médias français.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
On a commencé l'émission en parlant de constitution. Ben là, on va parler d'un autre mot qui finit en sion, mais qui est bien différent. On va parler de masturbation. Pourquoi? Parce que la compagnie Womanizer, qui fait justement des jouets sexuels, a réalisé une étude, et selon cette étude-là, les femmes se masturbent beaucoup plus en 2022 qu'en 2021. On va parler de tout ça avec Anne-Marie Auly, A-U, plus loin, L-I-T, elle est sexologue. Son vrai nom, c'est Anne-Marie Ménard. Bonjour Anne-Marie, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, merci, vous?
Moi, ça va très bien. Écoutez, moi, je trouve ça extrêmement important de parler de masturbation parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Ça touche les hommes, ça touche les femmes, ça touche les gens qui ont une vie sexuelle avec un autre partenaire, ceux qui n'ont pas de vie sexuelle avec un autre partenaire. Ça touche les plus jeunes, ça touche les plus vieux. Il n'y a pas d'âge vraiment pour se masturber et pourtant, ça reste encore un tabou. Comment se fait-il qu'en 2022, alors qu'on est supposément une société ouverte, tout va bien, nos idées sont... On est libérés entre les deux oreilles. On a juste à dire le mot « masturbation » et ça crée un malaise, Anne-Marie.
Il y a encore définitivement des malaises entourant la masturbation. Et c'est dommage parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est tout le monde qui a accès à la masturbation. Et selon moi, c'est par là que passe le pouvoir sexuel, l'autonomie sexuelle. malheureusement, il existe encore beaucoup de discours qui sont péjoratifs, qui sont négatifs, qui vont perpétuer ces tabous-là entourant la masturbation. Et je dirais que ça part de vraiment très loin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un médecin dans les années 1700 qui s'appelait Samuel Auguste Tissot.
Non, mais je pense que vous allez nous en parler. Expliquez-nous qui était ce monsieur et qu'est-ce qu'il en avait contre ou pour la masturbation.
Donc, en fait, lui, il a écrit un ouvrage qui était consacré entièrement à ce qu'on dit ou ce qu'on appelle les, en gros guillemets, les méfaits de la masturbation. Et son livre s'appelle carrément L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation.
Ben, voyons donc.
Oui, c'est absolument horrible. Il mentionnait que la masturbation rendait infertile, que ça rendait sourd, qu'on peut avoir du poil qui pousse sur les mains. Et ça a été vendu dans des millions d'exemplaires partout sur le globe. Et ce livre-là est encore en circulation aujourd'hui. Ah. Qui n'aide surtout pas.
Non. Alors, parce que cette phrase-là, vous venez de la mentionner, là, la masturbation rend sourd, on a entendu ça. Moi, je pensais que c'était comme une blague que, mettons, les curés disaient ça aux jeunes hommes, et que c'était... Mais donc, ça, tout ça part de M. Tissot au 18e siècle. Mais comment se fait-il, Anne-Marie, que ce préjugé-là, ou cette image négative de la masturbation, qu'elle ait survécu depuis le 18e siècle et qu'elle soit encore aussi présente en 2022?
Je pense que on doit avoir accès à une libération des discours entourant la question de la masturbation. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a aussi tous les doubles standards. On parle de masturbation féminine et de l'écart de masturbation qui est en train de se réduire entre les hommes et les femmes. Et je pense que il y a un affranchissement des discours autour des questions liées au plaisir féminin, surtout qui est en train de se faire dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est à travers ce discours-là qu'on va libérer cette pression-là qu'on a autour de la masturbation, qu'on va envoyer des images un petit peu plus positives. Je pense vraiment que c'est une question de discours, une question de tabou. Évidemment, la religion a eu quelque chose à faire là-dedans, mais je pense qu'on a dépassé cette ère-là. Comme je mentionne, je pense que les discours qu'on va tenir à ce sujet-là, puis d'en parler comme ça ouvertement oui. à la radio et tout ça, je pense que ça va libérer, là, vraiment.
Bon, alors libérons-nous, Anne-Marie, c'est ça qu'on va faire. Alors, cette étude-là, bon, évidemment, c'est une étude qui a été commandée par Womanizer, qui est une compagnie qui fait donc des vibrateurs très sophistiqués, là, qui garantissent des orgasmes à pu finir aux femmes. Il reste que cette étude-là montre que les femmes se sont beaucoup plus masturbées en 2002 qu'en 2021. Quand vous regardez ce genre d'étude-là, est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux ou c'est juste un outil de marketing pour une compagnie qui a des bébelles à nous vendre?
Je pense qu'on peut prendre ça au sérieux. Puis je le vois de par mes réseaux sociaux. Je vois l'engouement aussi. Je pense qu'il y a une espèce de révolution sexuelle qui est en cours présentement. L'article mentionne aussi qu'il y a un changement social. Je pense que grâce aux différents médias, dont les réseaux sociaux, on assiste à une démocratisation de l'éducation sexuelle. Et par conséquent, moi, j'aime dire qu'il y a une révolution sexuelle présentement. Comme je l'ai mentionné, on a une libération des discours normatifs entourant la masturbation féminine. Et je pense que ça contribue grandement à l'émancipation des femmes dans la sphère intime, là.
Oui. Alors ça, c'est important parce que, ben, vous l'avez mentionné, puis c'est comme une évidence, un homme qui dit qu'il se masturbe, bon, ben, les gens vont peut-être un peu rigoler et tout ça, mais c'est comme, ça fait partie des mœurs, là, on est habitué. Une femme qui parle de masturbation, déjà, le regard est différent, mais les choses sont en train de changer. Est-ce que c'est parce que la jeune génération est moins complexée par rapport à la masturbation?
Je pense que c'est qu'il y a plus d'éducation. Je pense qu'il y a une meilleure accessibilité à l'information. Et cette éducation-là contribue présentement à améliorer la connaissance du corps des femmes. Il y a la clito-révolution sur les réseaux sociaux qui est
tellement
dont l'objectif. Vous en avez entendu parler.
Ah ben oui, ben j'en ai parlé d'ailleurs avec des collègues à vous, d'autres sexologues, c'est que ne serait-ce que, puis je m'excuse de vous interrompre, mais je suis tellement enthousiaste par rapport à ce sujet-là, la méconnaissance qu'on avait jusqu'à tout récemment du clitoris, où on pensait que c'était juste le petit bouton de plaisir qui est plus peut-être plus apparent, puis qu'on se rend compte avec justement toutes sortes de modélisations de la complexité, de la grandeur du clitoris avec ses deux, la forme centrale puis les deux côtés juste le fait de le dessiner ou de prendre conscience de toute la place qu'il occupe, le clitoris, ça change complètement la sexualité.
Définitivement, je pense qu'on la voit aussi beaucoup moins pénétro-phallocentrée, et il y a des statistiques absolument impressionnante qui mentionne que 9 femmes sur 10 vont avoir un orgasme grâce à la stimulation directe du clitoris. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de continuer de le mentionner, parce que c'est seulement qu'une femme sur 5 qui atteint l'orgasme grâce à la pénétration, alors que notre sexualité hétérosexuelle, elle est très, très pénétro-centrée. Et c'est pas nécessairement ce qui va mener au plaisir. Donc, en démystifiant le clitoris, on redonne aux femmes ce pouvoir-là qu'elles ont entre les mains, littéralement, de pouvoir accéder au plaisir.
J'aime bien l'expression « entre les mains ». Donc, quand vous dites pénétro-centriste, en fait, ça veut dire que c'est une sexualité qui est très axée sur la pénétration, hors pénétration, point de salut, alors qu'il y a toutes sortes de façons de stimuler le clitoris qui passent pas nécessairement par la pénétration. Puis, c'est pas juste quelque chose qui est important pour les femmes, c'est important pour le partenaire, peu importe le sexe ou le genre du partenaire, de se dire, ben plus on va connaître le centre du plaisir féminin, mieux on va pouvoir le stimuler. Puis il y a une autre chose aussi qui est formidable à propos du clitoris, c'est le seul organe du corps humain qui est entièrement consacré au plaisir. C'est fou quand même!
Exact. Puis, ce qui est triste, en fait, on parle de quelque chose de super positif, mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'il n'est même pas mentionné au Québec dans les cours d'éducation à la sexualité.
Hein?
Et oui, puis c'est vraiment triste. On parle, il y a 5 à 15 heures d'éducation sexuelle par année dans les écoles, et le clitoris n'est pas mentionné. Et le clitoris est l'analogue du pénis. Donc, c'est comme si on parlait de plaisir masculin sans parler du pénis. C'est comme si on parlait de la respiration sans parler des poumons. Et donc, pour moi, c'est un scandale qu'on ne parle pas de ce petit organe-là qui a tellement de pouvoir et qui peut justement aider la femme à s'émanciper, à s'épanouir sexuellement.
Je suis en train de tomber en bas de ma chaise, vous l'avez pas entendu, là, mais il y a eu comme un gros boom dans mon studio parce que j'en reviens pas. Donc, vous êtes en train de me dire qu'au Québec, en 2022, dans une société normalement évoluée, dans une société supposément progressiste, supposément féministe, supposément égalitaire, supposément tout ça, dans nos cours de sexualité, d'abord, vous me dites entre 5 et 15 heures, c'est rien du tout, c'est rikiki, qu'on ne mentionne pas ce formidable outil qu'est le clitoris, ça n'a aucun sens. C'est comme parler du visage, puis pas parler du nez.
Exact. On oublie carrément de parler de cet organe-là qui, justement, entoure le plaisir des femmes. Et pour moi, ça aussi, ça perpétue ces tabous-là entourant la masturbation ou le plaisir féminin. Je pense que, justement, l'arrivée des réseaux sociaux ou les discussions dans les médias qu'on peut avoir sur le sujet aident vraiment les femmes à pouvoir se libérer à ce niveau-là. Dans les thématiques qu'on aborde, on parle des ITSS, des grossesses non désirées, mais on parle à peine du plaisir. Je regardais justement le cursus hier, là, c'est en 4e et 5e secondaire, on va parler de la thématique de l'agir sexuel. Dans cette thématique-là, on va parler de la réponse sexuelle, qui est l'ensemble des réactions physiologiques et psychologiques lors d'un rapport sexuel. Donc, on va parler de l'érection, du pénis, mais on parlera pas du clitoris. Et comme je l'ai mentionné, c'est littéralement l'analogue du pénis. Donc, le clitoris aussi rentre en érection lors de la réponse sexuelle. Donc, on omet carrément de parler de ce qui est réellement important dans le plaisir féminin.
Je suis complètement estomaquée, et vous avez utilisé le mot scandale et scandaleux, et je pense pas que ce soit de l'exagération. Au contraire, je participe, moi je suis dans l'équipe Anne-Marie, je trouve ça en effet scandaleux, et ce que ça veut dire, c'est que, bon, déjà on trouve qu'il y a pas suffisamment d'éducation sexuelle, mais si en plus l'éducation qu'on donne n'est pas complète, ben ça veut dire que on se retrouve justement avec je vais aller jusqu'à dire que une jeune fille aujourd'hui qui suivrait donc dont la seule source d'information sur l'éducation sexuelle ce serait l'éducation qu'elle a à l'école sera pas consciente de la possibilité qu'elle a soit d'avoir du plaisir par elle-même, soit que son partenaire lui en donne, parce qu'on parlera même pas de son organe de plaisir. Je capote complètement.
Oui, puis en plus, dans la pornographie, on voit surtout des scripts, des scénarios sexuels qui vont mettre de l'avant le plaisir masculin, qui vont être très centrés sur le pénis. Et donc, on voit peu de stimulation directe du clitoris dans la pornographie, ce qui fait en sorte que on ne voit pas ce genre de scénario et les jeunes tendent à reproduire les scénarios qu'on voit dans la pornographie parce que c'est par là que passe la majorité, malheureusement, de leur éducation sexuelle. Et donc, ça contribue à créer un écart dans la masturbation, mais aussi un écart de jouissance. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'écart de jouissance qui stipule que 95% des hommes hétérosexuels atteignent toujours l'orgasme lors de rapports sexuels, alors que c'est le cas pour seulement 65% des femmes hétéros. Il y a une espèce d'écart de 30% entre les deux. Mm-hmm. Et c'est dû majoritairement justement à la méconnaissance du corps des femmes, au manque d'informations, mais aussi aux scripts sexuels qui sont mésadaptés au plaisir féminin.
Rassurez-moi et dites-moi que même pour ça, que justement la nouvelle génération qui monte, qu'elle est plus à même, qu'elle explore plus, qu'elle est plus curieuse, qu'elle a moins de tabous, qu'elle a moins de... Rassurez-moi, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans la jeune génération pour la libération du clitoris?
Ah, tellement. Puis je pense qu'il y a espoir pas juste pour les jeunes générations. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir son corps. Et c'est ce que je trouve merveilleux. En fait, comme je l'ai dit, hein, c'est au bout des doigts. Le plaisir est au bout des doigts. Puis je pense qu'on voit aussi dans l'essor au niveau des ventes qui ont eu lieu dans les dernières années au sujet des jouets sexuels, par exemple, qui sont des outils oui. incroyables pour certaines femmes. Donc, je pense qu'on assiste, comme je l'ai mentionné, à une révolution sexuelle. Les femmes ont envie de prendre en main leur plaisir et je pense que ça passe, entre autres, par la masturbation. Pour moi, c'est donner la permission de s'aimer, de se découvrir. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait d'être autonome dans la sphère intime. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se donne cette permission-là. Puis, je pense que peu importe l'âge qu'on a, c'est jamais trop tard pour commencer.
Oui, puis quand il y a des gens comme, par exemple, bon, on en a beaucoup rigolé, mais mettons quelqu'un comme Gwyneth Paltrow, là, avait sur son site Goop, où elle vend toutes sortes de produits, bon, elle vend justement des jouets sexuels qui valent une fortune, on n'a pas besoin d'avoir ça, mais le fait que justement quelqu'un d'aussi connu qu'elle vende ces produits-là, ça sert aussi à, ça aide en tout cas à enlever en partie le tabou. Ben écoutez, Anne-Marie, ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Je rappelle que donc vous avez un alias Anne-Marie au lit et vous contribuez justement vous aussi beaucoup à décomplexifier, à décomplexer, à démystifier, à détabouiser la sexualité. Merci de l'avoir fait avec nous aujourd'hui, puis j'encourage tout le monde à aller voir vos différentes déclinaisons sur différents sites et différents médias sociaux aussi à vous suivre. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Merci à vous et merci à vous aussi d'encourager les discours positifs entourant le sujet.
Ben écoutez, moi, c'est un plaisir.
C'est le cas de le dire.
Désolée, fallait que je la place. Bon, merci beaucoup, Anne-Marie.
Merci.
Anne-Marie Ménard, sexologue, son alias Anne-Marie au lit. C'est sur ce grand éclat de rire que se termine l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde, également Charlotte Duquette, Frédéric Houle, Jean-Nicolas Gagné, qui ont travaillé très fort en fin de semaine pour vous présenter cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain, puis attention, hein, c'est la dernière semaine, on quitte pour la saison régulière. Évidemment, tous nos collègues vont continuer pendant tout l'été, mais et nous, on se quitte vendredi, ça va être ma dernière journée. On va se retrouver, bien sûr, en septembre pour la suite. Mais donc on savoure chaque minute jusqu'à vendredi.
Cube Radio.